La revanche. Je me suis trompé, pensa Raoul. Elles n'ont pas reçu le télégramme les priant de revenir à Paris près de moi, et surprises par ma disparition, elles me cherchent. Tout de suite, il eut l'idée que leurs investigations ne seraient pas vaines et que Béchoux, particulièrement spécialiste en la matière, aboutirait aisément. Le domaine, somme toute, était de proportions restreintes, et les cachettes où l'on avait pu s'enfuir, en supposant qu'on le crût mort ou blessé, n'étaient pas si nombreuses. Les roches du défilé de la butte aux Romains, les ruines de la serre, deux ou trois autres endroits peut-être qu'ils connaissaient tous et qu'il avait inspectés souvent avec Bichou, en dehors de cela, de la rivière du pavillon de chasse et du manoir, où aurait-on pu dissimuler un cadavre? Mais les heures passaient et l'espoir de Raoul diminuait. « Béchoux, se disait-il, n'est pas en forme actuellement. Quel acharnement qu'il mette à me retrouver. L'amour lui enlève une partie de ses moyens. Et puis sans doute s'égare-t-il avec les deux jeunes femmes et les deux domestiques hors du jardin, vers les collines proches, vers le petit bois, vers la Seine. Oh, et puis, qui sait? Ils ne se sont peut-être pas arrêtés à l'hypothèse d'un crime. Ils peuvent croire que je suis parti pour des raisons impérieuses, sans avoir eu le temps de les avertir, et que j'effectue une expédition préalable, et ils m'attendent. » De fait, la journée s'acheva sans nouveaux appels. Aucun bruit ne lui parvint que des bruits de bateaux ou d'automobiles. Les heures aussi continuaient à sonner, et lorsque, le soir, sonna la 10e heure, il se dit que Catherine et Bertrand n'étaient plus protégées par lui et que, avec la nuit qui commençait, elles devaient tressaillir de peur. Il redoubla d'efforts, ses cordes le serraient avec moins de rigueur et le point d'attache avait fini par céder, de sorte qu'il lui était possible d'évoluer plus vite vers l'issue qu'il imaginait. Il respirait mieux à travers l'étoffe assez large de la couverture. Mais la faim, sans toutefois le faire souffrir, rendait sa besogne plus âpre et moins efficace. Il s'endormit. Sommeil fiévreux, coupé de cauchemars qui le réveillaient en sursaut, et sommeil auquel il s'arracha tout à coup en criant d'angoisse sans savoir pourquoi. « Hé, dit-il à haute voix, afin de se remettre en équilibre, « est-ce que mon cerveau va chavirer pour deux malheureux jours de fatigue et de diète ?» 7 heures sonnaient. C'était le matin du 12 septembre, le premier des jours fatidiques annoncés par lui. Tout laissait prévoir maintenant que l'ennemi gagnerait la bataille. Cette idée le fouetta d'une énergie où il y avait de la rage et de l'exaspération. La bataille gagnée par l'autre, c'était la défaite et la ruine des sœurs, le grand secret dérobé et l'impunité du coupable, et c'était sa mort à lui. S'il voulait ne pas mourir et vaincre, il fallait soulever la pierre du tombeau et s'échapper. Il avait conscience, à l'air plus vif qu'il respirait, que l'issue n'était pas loin. Une fois dehors, il appellerait, on viendrait, il serait sauvé. Il donna l'effort suprême. Peut-être allait-il passer, lorsque, soudain, il eut l'impression qu'il se produisait autour de lui comme un cataclysme. Tout le monticule où, avec sa tête, avec ses épaules, avec ses coudes, ses genoux et ses pieds, il creusait sa taupinière, s'effondra. Était-ce ses manœuvres qui avaient provoqué la débâcle? Était-ce l'ennemi qui, surveillant et constatant les progrès du cheminement vers l'issue, avait démoli d'un coup de pioche l'édifice fragile? Toujours est-il que Raoul se sentit écrasé de toutes parts, étouffé, perdu. Il résista. Il s'arc-bouta de nouveau, il retint son souffle, il épargna l'air qui lui restait, mais c'était à peine s'il pouvait soulever sa poitrine et respirer sous le poids qui l'oppressait. Il pensa encore, « Oh, j'en ai pour 15 minutes. Oh, si dans 15 minutes... » Il compta les secondes, mais bientôt ses tempes se mirent à battre, ses idées tourbillonnèrent dans le délire, il ne sut pas ce qui se passait. Il se retrouva sur son lit, dans l'ancienne chambre qu'il occupait au manoir. Quand il ouvrit les yeux, il constata qu'il était tout habillé, que Catherine et Bertrande le regardaient anxieusement et que la pendule marquait 7h15. Il chuchota « 15 minutes, pas davantage, hein, sans quoi ?» Il entendit la voix de Béchou qui ordonnait « Vite, Ardonne, courez au pavillon et rapportez sa valise. Charlotte, une tasse de thé et des biscottes, et au galop, n'est-ce pas ?» Et revenant au lit, Béchou lui dit « Il faut manger, mon vieux, pas trop, mais il le faut. Ah, sacrebleu, tu nous en as fait une trousse. Mais qu'est-ce qui s'est donc arrivé ?» Catherine et Bertrande, le visage décomposé, pleuraient. Chacune d'elles prit une de ses mains. Bertrande murmura, « Ne répondez pas, ne parlez pas, vous devez être à bout de force. Ah, ce que nous avons eu peur, nous ne comprenions pas votre disparition. Dites-nous, ah non, non, mais non, ne dites rien, reposez-vous. » Elles se turent, mais elles étaient l'une et l'autre dans un tel état de surexcitation qu'elle posait de nouvelles questions auxquelles, sur le champ, elle lui défendait de répondre. Il en était de même de Béchou, que les dangers courus par Raoul semblaient avoir complètement désorganisé. Il jetait des paroles incohérentes et s'interrompait pour crier des ordres absurdes. Lorsque Raoul eut bu sa tasse de thé et mangé ses biscottes, un peu réconforté, il murmura « On vous a envoyé un télégramme de Paris, n'est-ce pas ?»« Oui, dit Béchou, tu nous demandais de te rejoindre par le premier train. Rendez-vous chez toi. »« Et pourquoi n'êtes-vous pas venu ?»« Moi, je voulais, mais n'ont pas voulu. »« Mais pourquoi ?»« Ben, ce sont des filets, dit Béchou. »« Elles ne croyaient pas que tu aies pu les quitter comme ça, alors nous avons cherché. » Surtout dehors, dans le bois. Puis on était désorientés. N'étais-tu pas parti? On ne savait pas. Et les heures filaient, on ne dormait plus. Tu n'as pas prévenu la gendarmerie? Non. Ah, la bonne heure. Et comment m'a-t-on trouvé? Ben, c'est Charlotte. Ce matin, elle a crié dans la maison. Sermu, du côté de l'ancienne serre. J'ai vu de ma fenêtre, alors on a couru, on a pratiqué une ouverture. Raoul dit tout bas, « Merci, Charlotte. » Puis comme on lui demandait ses projets, il articula d'une voix plus ferme, « Oh, dormir d'abord, et puis partir. Nous irons au Havre quelques jours. L'air de la mer me remettra. » On le laissa, les volets furent clos, les portes fermées. Il s'endormit. Quand il sonna vers 2 heures de l'après-midi et que Bertrande entra dans la pièce, elle le trouva étendu sur un fauteuil, la mine meilleure, le visage rasé, habillé de vêtements bien propres. Elle le contempla un instant avec des yeux ravis, puis alla vers lui et très simplement l'embrassa sur le front. Puis elle embrassa ses mains et des larmes se mêlèrent à ses baisers. Charlotte les servit tous dans la chambre de Raoul. Il mangea peu. Il semblait très las et il avait hâte de quitter le manoir, comme si les souvenirs de ses souffrances l'obsédaient. Béchou dut le soutenir, presque le porter dans l'auto. On l'installa au fond. Béchou se mit au volant et conduisit tant bien que mal. Arnold et Charlotte devait prendre le train du soir pour Paris. Au Havre, Raoul ne voulut pas, pour des raisons qu'il ne formulait point, que l'on descendît les valises et qu'on s'installât dans un hôtel. Il se fit mener sur la plage de Sainte-Adresse et s'étendit sur le sable, où il resta toute la journée sans mot dire, respirant à plein poumon le vent plus frais qui s'élevait peu à peu. Ainsi le soleil se coucha parmi les longs nuages roses alignés tout au long du ciel, et quand la dernière flamme se fut éteinte à l'horizon, les deux sœurs Zébéchou assistèrent au spectacle le plus inattendu. Raoul d'Avenac se dressa tout à coup sur le coin de plage désert où ils se trouvaient tous les quatre, et il se mit à danser une danse échevelée, composée des pas et des gestes les plus hétéroclites, et accompagnée de petits cris aigus, pareils à ceux des mouettes qui se balançaient au-dessus de l'eau. « Mais à quoi tu es fou ?» s'exclama Béchou. Raoul l'empoigna par la taille, le fit tourbillonner, puis le souleva au sol, s'allongea sur ses bras tendus en l'air. Catherine et Bertrand riaient et s'ébahissaient. Mais d'où lui venait cette force subite à lui qui semblait depuis le matin exténué par la dure épreuve ? Alors, dit-il en les entraînant, vous vous imaginiez que j'allais croupir dans le coma durant des jours et des jours. Fini la débâcle ! Elle était même finie au manoir après ma tasse de thé et mes 2 heures de sommeil. Fiche, si vous croyez, mes jolis amis, que je vais perdre mon temps à jouer les jeunes accouchés. Allez, à l'œuvre ! Et d'abord, mangeons. Oh, j'ai une de ces faims !» Il les mena tout droit dans une taverne réputée où il fit un repas à la Gargantua, et jamais elle n'avait vu si plein de verve et d'esprit. Béchou lui-même en était confondu. « Mais t'as rajeuni dans ta tombe » s'écria-t-il. « Ben, faut bien compenser ton ramollissement, mon vieux Béchou, » dit Raoul. « Vraiment, durant toute cette crise, t'as été pitoyable. C'est comme pour conduire l'auto. Quelle mazette tu fais ! Tantôt, je tremblais de peur. Tiens, veux-tu que je te donne une leçon ?» La nuit était venue quand ils remontèrent en voiture. Cette fois, Raoul prit le volant et fit asseoir Béchou près de lui, les deux sœurs au fond. « Et surtout, dit-il, qu'on ne s'effraie pas. J'ai besoin de me dégourdir, et plus on avancera, mieux ça vaudra. » De fait, l'auto parut bondir et tout de suite s'élança sur les rues pavées et sur la route qui mène à Harfleur. Une longue côte s'aplanit devant eux, et ce fut sur le plateau, Cauchois, une trombe qui passa. On traversa le gourd de Saint-Romain et l'on prit la route de l'île Bonne. Parfois, Raoul lançait un chant de triomphe ou apostrophait Béchou. « Ah, mon vieux, ça t'épate, hein. Pour un moribond, oh, je vais pas mal. Voilà, Béchou, comment conduit un gentilhomme. Mais peut-être as-tu la frousse. Catherine, Bertrand, Béchou à la frousse. Préférable de stopper. En ce cas, qu'en dites-vous ? Il tourna sur la droite avant que l'on s'engageât dans la longue descente de l'île Bonne et se dirigea vers une église dont le clocher jaillissait sous la lune et au milieu des nuages. Saint-Jean de Folleville, vous connaissez ce village, hein, Bertrand et Catherine ? 20 minutes à pied de la Bariva. Mais j'ai préféré surgir par en haut pour qu'on ne nous entende pas venir par la route de la Seine. « Qui ont ?» demanda Bichou. « Tu vas le voir, bouffi !» Il rangea sa voiture le long d'un talus de ferme et ils suivirent le chemin vicinal qui dessert le château et le hameau de Basme, le bois de la mer Vauchel et le vallon de Radicatel. Ils marchaient doucement, avec précaution. Le vent soufflait et des nuages peu épais voilaient la lune. Ils arrivèrent ainsi, tout en haut de l'enceinte, non loin des ronces où Raoul, l'avant-veille, avait couché l'échelle. L'ayant retrouvée, il la dressa contre le mur, monta et observa le parc. Puis il appela ses compagnons. « Ils sont deux qui travaillent, » leur dit-il à voix basse. « Non, je suis pas trop surpris. » Les autres montèrent tour à tour, avides de voir, et passèrent la tête. Deux ombres, en effet, étaient debout, de chaque côté de la rivière, à hauteur du pigeonnier, l'une dans l'île, l'autre sur la berge du barc. Elles ne bougeaient pas et ne semblaient pas se cacher. Mais que faisaient-elles? À quelle besogne mystérieuse se lieraient-elles? Une brume légère reliant les nuages, on ne pouvait reconnaître les deux êtres, si tant est qu'on les connût déjà. Leur silhouette paraissait de plus en plus courbée au-dessous de la rivière. Ils devaient y plonger leur regard et surveiller quelque chose. Cependant, ils n'avaient aucune lanterne qui pût les aider dans leur tâche. On eût dit deux braconniers à l'affût ou qui tendaient des pièges. Raoul remporta l'échelle jusqu'à la maison de Béchou. Ensuite, ils se rendirent au manoir. Deux chaînes à cadenas renforçaient la fermeture de la serrure. Il avait fait faire le double de toutes les clés et il possédait de même la clé qui ouvrait la porte de la maison par derrière. Il marchait avec précaution, mais il n'y avait aucun danger que les autres qui opéraient dans le parc en avant du manoir puissent les entendre. Une lampe de poche très faible les éclairait. Raoul entra dans le billard et prit, au milieu d'une panoplie de vieilles armes hors d'usage, un fusil, placé là d'avance. « Il est chargé, » dit-il. « Avoue, Béchou, que la cachette est bonne et que tu ne t'en doutais pas. »« Vous n'allez pas les tuer, » murmura Catherine qui s'effarait. « Non, mais je vais tirer. Oh, je vous en supplie. » Il éteignit sa lampe de poche et, tout doucement, ouvrit une des croisées de la fenêtre et poussa l'un des volets. Le ciel était de plus en plus gris. Cependant, là-bas, à 60 ou 80 mètres environ, on voyait toujours les deux ombres immobiles, pareilles à des statues. Le vent croissait sa force. Quelques minutes s'écoulèrent. Une des ombres fit un geste lent. L'autre, qui était dans l'île, se courba davantage au-dessus de la rivière. Raoul épaula. Catherine éplorait, supplia. « Mais je vous en prie, je vous en prie. »« Mais que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-il. « Mais courir sur eux et les saisir. » Et s'il s'enfuit, s'il nous échappe? Impossible, mais je préfère une certitude. Il visa. Le cœur des deux jeunes femmes se crispa. Elles eussent voulu que l'acte terrible fût accompli déjà, et elles redoutaient d'en entendre l'explosion. Dans l'île, l'ombre s'inclina davantage encore, puis s'éloigna. Était-ce le signal du départ? Coup sur coup, il y eut deux détonations. Raoul avait tiré. Et là-bas, les deux êtres roulèrent sur l'herbe avec des gémissements. « Ne bougez pas d'ici !» enjoignit Raoul à Bertrand et à Catherine. « Ne bougez pas !» Et comme ils insistaient pour le suivre, « Non, non » dit-il, « on ne sait jamais comment ces boucles-là peuvent réagir. » « Attendez-nous et préparez ce qu'il faut pour les soigner. D'ailleurs, ce n'est pas bien grave. Je leur ai tiré aux jambes avec du menu plomb. Béchou, tu trouveras dans le coffre du vestibule des courroies de cuir et deux cordes. » Lui-même, en passant, il se saisit d'un fauteuil transatlantique qui pouvait servir de brancard, et il alla, sans se presser, vers la rivière sur les bords de laquelle les deux blessés gisaient inertes. Sur son ordre, Béchou tenait des revolvers au poing, et Raoul dit à celui des adversaires qui était le plus proche « Pas de sale coup, hein, camarade. À la moindre tentative, le brigadier t'achève comme une bête puante. Du reste, à quoi cela te servirait-il de rouspéter ?» Il s'agenouilla, lança un jet de lumière et ricana. « Ah, je me doutais bien que c'était toi, monsieur Arnold. Mais tu manœuvrais si habilement que mes soupçons se dissipaient toujours et que ma conviction ne date que de ce matin. Et alors, qu'est-ce que tu faisais là, mon vieux? Tu pêchais de la poudre d'or dans la rivière? Oh, tu vas t'expliquer là-dessus, hein? Béchou, fixe-moi ce client sur le brancard. Deux courroies au poignet, ça suffira. Et puis de la douceur, n'est-ce pas? Il a du plomb dans l'aile, ou plutôt dans les fesses. » Ils le portèrent avec précaution dans le salon principal, où les deux jeunes femmes avaient allumé les lampes, et Raoul leur dit « Eh bien, voilà le colis numéro un, monsieur Arnold. Mon Dieu, oui, ah, le domestique, le fidèle domestique du grand-père Montessieu, son homme de confiance. Vous ne vous attendiez pas à celle-là, hein? Bon, au numéro 2 maintenant. » 10 minutes plus tard, Raoul et Béchou cueillaient le complice qui avait réussi à se traîner jusqu'au pigeonnier et dont la voix larmoyante bégayait. « Oui, c'est moi, Charlotte, mais j'y suis pour rien, j'ai rien fait. » « Charlotte ! » s'écria Raoul en pouffant de rire. « Comment ? Oh, c'est la jolie cuisinière en salopette et en pantalon de toile. Dis donc, Béchou, mes félicitations. Elle est charmante ainsi, ta bien-aimée. Mais tout de même, Charlotte, la complice de Monsieur Arnold, celle-là, elle est raide et j'y avais pas pensé. « Ma pauvre Charlotte, vous n'avez pas trop salé la partie la plus charnue de votre confort à personne. Allez, tu la soigneras bien, Béchou, tu la soigneras bien. Oh, quelques compresses rafraîchissantes, délicatement posées et souvent renouvelées. » Raoul inspecta les bords de la rivière et ramassa une longue bande de toile fine composée de deux draps cousus bout à bout et qui traînait d'une berge à l'autre en trempant dans l'eau. Un large pli formait poche à la partie inférieure. « Ah ah » s'exclama-t-il gaiement. « Voilà donc notre filet de pêche. Mais à nous les poissons d'or, Béchou !»